Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le sultanat d'Oman occupe une position singulière au Moyen-Orient. Territoire situé à la pointe est de la péninsule arabique, cet État qui débordait autrefois sur l'Afrique est surtout connu pour être un point de passage entre l'Europe et l'Asie. Lieu de brassage où excellaient autrefois les pirates, le sultanat cherche aujourd'hui à retenir le voyageur et surtout à accueillir les investisseurs pour ancrer le pays dans l'après-pétrole. Monarchie au comportement politique novateur pour la région, la question de la succession du sultan Qaboos est l'une des préoccupations majeures des Omanais. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orion Hebdo sur RFI.
Bienvenue au sultanat d'Oman, un pays paisible qui fait rarement les gros titres de l'actualité. Oman est bien moins connu que ses voisins immédiats, ceux de la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Yémen, et aussi celui situé sur l'autre rive du détroit d'Ormuz, l'Iran. Mais ce pays vaut sans doute le détour par bien des aspects. Bonjour Dominique Bayard.
Bonjour Eric.
Vous y étiez la semaine dernière à l'invitation de l'Association des journalistes omanais.
Oui, effectivement, avec une dizaine de journalistes européens, j'ai participé à ce voyage de presse où on a bien voulu nous montrer la face la plus positive du pays, évidemment. Alors, Oman, c'est une société bienveillante, ouverte sur l'extérieur. Un pays, en fait, qui gagne à être connu. Et j'ai compris pourquoi Oman avait besoin de mieux se faire connaître, se faire reconnaître, dès que je suis arrivée à l'aéroport, à Mascate. Parce qu'en fait, l'avion que j'ai pris, l'avion de la Oman Air, était rempli de touristes. Et à ma grande surprise, eh bien, ils ne se sont pas arrêtés à Mascate. La plupart poursuivaient leur route vers d'autres destinations touristique. Oman, en fait, est un hub, un lieu de passage entre l'Occident et l'Orient, avec une grande façade maritime, tout près du détroit d'Ormuz. Alors, les Omanais, ils voient les bateaux passer, et aujourd'hui, ils aimeraient bien qu'il y ait plus de visiteurs qui s'attardent chez eux. Des touristes, bien sûr, mais aussi des investisseurs, parce que ceux-là sont très recherchés en ce moment. Ils vont aider le pays à diversifier son économie, à sortir de la dépendance à l'or noir, car comme tous les pays du Golfe, Oman s'est enrichi grâce au pétrole, mais la baisse des cours remet en cause son train de vie, évidemment.
Alors, Oman est méconnu, mais loin d'être un pays isolé. Par exemple, le sultanat fait partie du Conseil de coopération du Golfe, une organisation puissante dans la région.
Oui, une organisation dominée par le royaume saoudien. Et Oman, eh bien, il en fait partie, mais en même temps, il essaye de cultiver sa différence, ou plutôt ses différences. Oman a des bonnes relations avec tous ses voisins, y compris avec l'Iran. Le sultan a d'ailleurs joué un rôle de facilitateur dans les négociations entre Téhéran et Washington pour l'accord sur le nucléaire. Et Oman, aujourd'hui, ne fait pas partie de cette coalition qui guerroie au Yémen. Et alors, ce souci permanent de se distinguer des voisins, eh bien, on le retrouve dans tous les domaines, y compris dans les choix d'urbanisme. À Mascate, comme dans toutes les villes du pays, il n'y a pas de gratte-ciel, pas d'architecture un peu tape à l'œil, un peu surdimensionnée. Les nouveaux édifices qui ont été construits, je parle là de la capitale, l'opéra, la mosquée, les musées, eh bien tous conservent des dimensions, on pourrait dire, à taille humaine. La vie sociale aussi est assez différente de ce qu'on peut expérimenter en Arabie Saoudite, par exemple. Les femmes omanaises, certes, en bonne musulmane, sont voilées, mais les touristes, eux, sont libres de circuler, de se vêtir comme ils l'entendent. On peut aller en boîte de nuit, consommer de l'alcool, tout ça est très toléré dans ce pays. Et cette image de pays tolérant et puis aussi modeste dans ses démarches même urbanistiques, eh bien, c'est un message qui revient en boucle chez toutes les personnes que j'ai rencontrées. Parmi eux, le directeur de l'agence de promotion des investissements et des exportations. C'est une agence qui joue un rôle très important en ce moment. Alors, son directeur, c'est un quadragénaire dynamique, Faisal Turki Al-Saïd. Et on lui a demandé pourquoi est-ce que son pays ne faisait pas du sponsoring, du parrainage sportif comme le Qatar par exemple, pour faire un peu de publicité. Écoutez sa réponse.
Notre philosophie n'est pas de sponsoriser une équipe, et c'est quelque chose de très important. On est voisins, mais nous sommes différents, parce qu'ici, on agit avec nos moyens. Notre pays n'est pas du genre à jeter l'argent par les fenêtres. Nous avons besoin d'être stratégiques dans la façon dont nous l'investissons. Le meilleur support pour nous donner de la visibilité devrait être le tourisme. parce que ce pays est en mesure de proposer une expérience unique. Donc, Oman fait vraiment de son mieux pour offrir des expériences différentes à des visiteurs à la recherche de nouvelles destinations. Les gens viendront, ils dépenseront de l'argent, et on espère qu'ils apporteront aussi de l'argent à investir. Et je crois personnellement que les investisseurs, les ingénieurs, les médecins, tous les gens qui viennent comme visiteurs voient ce qu'est réellement Oman, et peut-être qu'ils auront envie de vivre ici. Et quand on présente Oman, on ne parle pas que d'infrastructure, on essaie aussi de parler du savoir-vivre.
Oman, pays singulier. Mais qu'en est-il des femmes, justement? Sont-elles présentes dans la vie publique?
Mais elles travaillent de plus en plus, hein, surtout les plus jeunes, les plus éduquées. Le gouvernement essaie de promouvoir l'emploi des Omanais en général et des Omanaises en particulier. Faisal Turki Al-Saïd a tenu à nous préciser que la moitié du personnel de l'agence qu'il dirige est féminin. En visitant l'opéra de Mascate, j'ai rencontré l'une de ces jeunes diplômées actives, assez décontractées, plutôt rigolotes, ravie de nous parler de cet opéra à l'italienne qui était voulu par le sultan. Le sultan, vous savez, est un grand mélomane. Et puis j'ai rencontré aussi au hasard de mes visites une autre de ces jeunes femmes qui incarne un peu cette génération montante. C'était au Musée National. Shorouk Najwani, elle parle couramment anglais, japonais. Elle a assuré toutes les traductions des ouvrages, des notices explicatives du musée. Et elle est responsable aujourd'hui des éditions du musée. Alors, dans cette institution qui présente le visage le plus avenant possible du pays à ses visiteurs étrangers, il y a même un espace consacré aux deux Omanaises qui ont été un peu des précurseurs dans leur domaine. Shorouk précise leurs exploits avant de parler des autres femmes qui comptent aujourd'hui dans la vie publique. Shorouk évoque d'abord la première femme arabe qui a passé le cap du doctorat.
Elle a été la première femme arabe à écrire son autobiographie. Elle était de la famille royale. Donc vous avez ici les prouesses accomplies par les femmes omanaises. Les ministères de l'éducation, de l'enseignement supérieur, du tourisme sont détenus par des femmes. Et il y a aussi beaucoup de femmes ambassadeurs. En fait, même dans ce musée, quand j'ai commencé à travailler, il y avait 80% de femmes. Bon, on a un peu plus d'hommes maintenant, mais on est encore majoritaire.
Alors, pour compléter le tour d'horizon des femmes omanaises qui comptent, hein, je précise qu'il n'y a qu'une seule femme élue à la Shura, la chambre basse du Parlement. Donc, la cause des femmes avance, mais lentement, et bien sûr, dans le respect de la tradition musulmane, hein, en visitant la mosquée flambant neuve de Sohar, qui a ouvert ses portes il y a 6 mois environ. Sohar, c'est le grand port du nord du pays, qui se trouve juste en dessous du détroit d'Ormuz. Eh bien, j'ai assisté à une réunion de sensibilisation sur la drogue. Il y avait quelques femmes présentes, voilées bien sûr, et sagement assises, regroupées un peu à l'arrière, discrètement de la salle.
Alors, dans une mosquée, dites-vous, pourquoi une réunion sur une question de société dans un espace religieux?
Eh bien en fait, oui, ça c'est assez intéressant, parce que le sultan dote toutes les grandes villes du pays de mosquées splendides, monumentales. Alors ce sont bien sûr d'abord des lieux de culte, mais des lieux de culte qui sont polyvalents, ils sont aussi des lieux de convivialité, d'échange. À Sohar, par exemple, il y a des salles pour organiser des conférences, des conventions, mais aussi des mariages pour les familles qui n'ont pas la place de recevoir chez eux. Il y a également une bibliothèque avec un accès internet ouverte au public, une bibliothèque très belle d'ailleurs, hein. Bibliothèque qui a encore pas beaucoup de livres, mais bon, la bibliothèque a ouvert il y a 6 mois seulement. Et on retrouve aussi cette même état d'esprit dans la grande mosquée Kabous de Mascate. Il y a aussi une très grande bibliothèque, encore plus grande. On trouve aussi bien des livres religieux sur le Coran que des livres techniques, scientifiques, de la littérature, et on a même trouvé un livre en anglais sur la sexualité post-menstrue. Et oui, il fallait aller à Oman pour trouver un ouvrage pareil.
Alors vous dites Kabous, donc ça veut dire que cette mosquée porte le nom du sultan?
Oui, comme de nombreux édifices du pays, hein, le sultan Kabous qui dirige le pays depuis 1971, il a fait un coup d'état contre son père, l'ancien sultan, et bien il a fait entrer son pays dans la modernité tout en préservant la cohésion sociale qui est basée sur l'islam, hein. La moitié des Omanais sont ibadites, c'est une branche de l'islam surtout pratiquée dans le sultanat et qui prône la tolérance, l'ouverture. D'ailleurs, cet hommage constant à la diversité, eh bien, on le retrouve aussi dans la décoration de ces mosquées. Les matériaux, comme les motifs utilisés, viennent du monde entier, d'Iran, d'Écosse, d'Italie, de Suisse ou encore de l'Ouzbékistan, comme si ces édifices devaient un peu montrer le meilleur de la tradition musulmane en provenance du monde entier.
Du coup, le nom de Qaboos est omniprésent à Oman ?
Oui, tout à fait. Son nom, son image, hein, on le retrouve un peu partout dans la vie publique. Ses portraits décorent tous les ministères. Et à l'intérieur de ces mosquées, dans le mihrab, où seul l'imam a le droit de stationner hein, pour faire son sermon, eh bien, il y a une porte réservée uniquement au passage du sultan, s'il veut venir prier avec les fidèles. Et c'est vrai que ça va pas être facile de lui trouver un successeur parce que on retrouve sa patte dans de multiples domaines, hein, dans la diplomatie du pays, dans sa vision du futur. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent, qu'est-ce qui va se passer après lui ? Et on a posé la question à Faisal Turki Al-Saïd.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce pays ne repose pas sur un seul homme. Et on n'arrête pas de le répéter. Avant lui, il y avait un sultan. Et après lui, il y aura un sultan. On marche avec un système, et ce système va perdurer. Quand cette question est posée, on répond que ce pays n'est pas dépendant des gens en poste. Si je quitte cette agence, elle ne va pas s'effondrer. Les gens ne nous demanderont pas ce qui va se passer avec le sultan. Ils nous diront, montrez-moi vos traités, montrez-moi que vous respectez la loi, démontrez-moi que si j'ai un problème dans mes affaires, je serai protégé. Voilà ce qui aujourd'hui préoccupe les investisseurs. Que vous soyez omanais ou non, vous serez protégé.
Alors Dominique, avec ou sans le sultan Qaboos, la vie continue et les affaires doivent prospérer à Oman.
Oui, vous avez entendu, hein, il n'y a pas de tabou sur sa succession, la génération montante est prête à prendre la relève. Et le discours que nous a tenu Faisal Turki Al-Saïd, qui était formé dans des universités anglo-saxonnes, donc il parle d'une façon très efficace, et il est très direct, eh bien son discours, il a fait mouche aussi parmi les autres Omanais qui nous accompagnaient. L'un d'eux me disait avec une pointe de fierté mêlée un peu d'inquiétude, vous voyez, la nouvelle génération omanaise, eh bien, elle dépote, on pourrait dire. Et c'était avant l'élection présidentielle française. Alors, il a même ajouté, chez nous aussi, on a des jeunes prêts à prendre les manettes, comme vous avez Emmanuel Macron en France.
Le sultanat d'Oman en 2017, un reportage signé Dominique Bayard pour Orient Hebdo. Mohamed El Hajmi est né en 1992 à Oman dans une famille de musiciens. Il passe son enfance dans un quartier populaire de la ville d'Essib. Mohamed El Hajmi prépare actuellement son premier album, Sout al-Emara, dont voici un extrait.
سواكم ترى في حياتي يلي مكانك بين روحي والأنفاس تروي ضمايا وعشقك يا غناتي غناتي.
أشنا الغتي بحبك extrait de l'album Sout al-Emara du musicien omanais Mohamed El Hajmi. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre, bonjour Michel. Et à la une de la presse israélienne, Michel, la visite du président Trump qui devrait avoir lieu le 22 mai.
C'est le sujet qui semble préoccuper le plus les Israéliens cette semaine, notamment à la droite de l'échiquier politique. Alors selon le quotidien Mariv, le président palestinien Mahmoud Abbas aurait décidé de tenter d'obtenir un accord de paix pour mettre fin au conflit. Il accepterait l'ouverture de négociations sans conditions préalables. Dans Haaretz, on cite en titre le nouvel ambassadeur américain en Israël, David Friedman, qui conseille à ses interlocuteurs israéliens de jouer le jeu. Trump, dit-il, est déterminé à engager un processus politique entre Israël et les Palestiniens, et le journal indique que la droite israélienne craint que Donald Trump ne soit tombé sous le charme des Palestiniens et qu'il tente un piège politique à Israël. En tout cas, Eric, tout le monde semble d'accord pour dire que le point fort de cette visite sera le discours que prononcera le président américain à Metsada, un site historique riche en symboles pour les Israéliens.
Alexandre, la presse arabe accorde, elle, une large place à la tension entre la Turquie et les États-Unis après leur décision d'armer les Kurdes de Syrie.
Une décision prise par le Pentagone, convaincu que les seules forces capables de combattre le groupe État islamique est celui des milices kurdes. Oubliées sous la présidence de Donald Trump, les forces démocratiques et autres armées libres syriennes auxquelles était attachée l'administration Obama, estiment des éditorialistes. Les journaux se font l'écho des déclaration de colère de la Turquie qui craint que ses armes ne finissent entre les mains du PKK, considéré comme une organisation terroriste par Ankara. Dans cette affaire, la presse arabe observe une neutralité méfiante. Méfiance à l'égard de l'expansionnisme de la Turquie d'Erdogan et méfiance à l'égard des velléités indépendantistes kurdes en Syrie et surtout en Irak.
Kurde de Syrie toujours, Alexandre, Al-Sharq al-Awsat consacre un reportage à la multiplication de médias kurdes.
Le journal explique que depuis le soulèvement contre le président syrien Bachar el-Assad, les Kurdes sont progressivement sortis du carcan socio-culturel que le régime leur imposait depuis des décennies. Et le média de prédilection des Kurdes, selon Al-Sharq al-Awsat, est la radio. Plus d'une dizaine de radios ont fleuri sur les ondes FM des régions contrôlées par les milices kurdes. Des radios qui se délectent du plaisir de pouvoir émettre en langue kurde des émissions politiques mais aussi culturelles. L'occasion de ressusciter le patrimoine culturel kurde qui avait été pratiquement enterré par le régime de Damas. Des Kurdes qui, du fait des combats, se sont rapprochés sur le terrain et n'hésitent plus à brandir leur identité culturelle.
Michel Paul, il est aussi beaucoup question dans vos journaux d'un projet de loi décrié renforçant le caractère juif d'Israël.
Le texte souligne que l'État d'Israël est la patrie du peuple juif, que seuls les ressortissants juifs ont droit au sein de la nation à l'autodétermination. La loi définit également les symboles de l'État, le drapeau, l'hymne national et d'autres icônes. Jérusalem est décrétée comme capitale du pays. Plusieurs autres points sont également mentionnés, notamment le droit au retour, mais là aussi pour les juifs seulement, et les relations avec la diaspora. Et aussi le fait que l'arabe ne soit plus la langue officielle avec l'hébreu. Mais Eric, l'éditorialiste de Haaretz, se déclare persuadé que cette loi, en fin de compte, sera enterrée et qu'un projet plus soft sera présenté au Parlement d'ici 2 mois.
Alexandre, l'institution islamique d'Al-Azhar est à nouveau sous le feu roulant de la presse égyptienne.
Des hostilités provoquées par le recteur de l'université islamique d'Al-Azhar qui, sur une chaîne de télévision privée, a accusé le chercheur Islam El-Bahiri d'apostasie. Une accusation gravissime en Égypte car elle implique chez les islamistes la peine de mort. Suite à des accusations similaires, le chercheur Farag Fouda a été assassiné, le Nobel de littérature Naguib Mahfouz poignardé et le professeur de littérature arabe Nasr Abouzeid forcé à l'exil jusqu'à sa mort. Même si le recteur a été limogé de son poste à la tête de l'université islamique, beaucoup d'éditorialistes estiment que le recteur a dit tout haut ce que tous les cheikhs d'Al-Azhar pensent tout bas.
Et pour conclure, Michel, votre photo du jour ?
Eh bien, c'est la photo de nos confrères de la radio-télé israélienne, publiée dans la presse ici, au terme d'une saga qui a duré 3 ans. L'office de radiodiffusion, qui était plus vieux que le pays lui-même, puisqu'il avait vu le jour en 1936, a été brusquement fermé. Les 1000 employés qui y travaillaient toujours ont été licenciés. Et la semaine prochaine, un nouvel organisme devrait débuter ses émissions.
Merci Michel, merci Alexandre, merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, et nous retrouver sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons la question sensible des frontières à l'occasion des 3e rencontres de l'histoire à l'Institut du Monde Arabe à Paris. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.